Vous écoutez France Culture.
De cette émission. D'ailleurs, nous nous réchaufferons auprès de l'actualité en compagnie de Jean Birnbaum qui co-anime les rencontres de Pétrarque. Donc, il viendra nous expliquer ce qui s'est dit hier lors de la conférence inaugurale donnée par Pierre Rosanvallon, donc dans la cour du rectorat. Nous ne sommes pas dans la cour du rectorat car il pleut ce matin à Montpellier et nous sommes dans le quorum réfugié, donc dans un studio à l'intérieur de ce quorum. Si vous voulez nous y rejoindre, vous pouvez y venir. Des rencontres de Pétrarque qui tous les soirs donc traitent du peuple, ce qui nous a donné l'idée dans la fabrique de l'histoire, de revenir en 5 volets sur cette notion de peuple dans l'histoire. Hier, vous avez pu écouter une discussion autour des distinctions à l'intérieur du peuple en Grèce antique et dans la Rome impériale. Demain, nous vous proposons de réfléchir aux révoltes populaires à l'époque moderne. Jeudi, nous aborderons les rivages de la Révolution française et vendredi, le 19e siècle. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons donc décliner ce thème du peuple au Moyen-Âge en compagnie de Perrine Caron, qui a préparé cette semaine avec nous, et d'Isabelle Furst, comédienne, qui nous accompagne ici à Montpellier pour lire les textes qui émaillent cette émission. Danielle Yankouagou est avec nous, elle est directrice de recherche au CNRS et responsable de la nouvelle Gallia Judaica ici à Montpellier. Thomas Granier est également avec nous, il est maître de conférences en histoire médiévale à Montpellier 3, et on peut lire de lui certains de ses articles dont nous parlerons d'ailleurs dans cette émission sur la plateforme italienne Reti Medievali, une plateforme sur laquelle également on trouve certains des articles de l'autre invité de cette émission, Patrick Gilly. Il est professeur d'histoire du Moyen-Âge à Montpellier 3 et directeur du Centre d'études médiévales ici à Montpellier. Bonjour mesdames, puisqu'il y a Perrine à mes côtés ainsi que Danielle Liancouagou, et bonjour messieurs, Thomas Granier et Patrick Gilly, et merci d'être ici donc face à un public qui s'est rapatrié avec nous ici dans le quorum, et merci à ceux qui sont venus donc écouter cette émission en direct et en public. D'abord, peut-être faudrait-il réembrayer notre discussion par rapport à ce qui a été dit dans l'émission d'hier. Nous évoquions la question des distinctions à l'intérieur de la façon de qualifier le peuple, que ça soit dans la Grèce antique, dans l'Athènes démocratique ou encore donc dans la Rome impériale. Est-ce que ces questions-là se posent au Moyen-Âge, Patrick Gilly par exemple? Est-ce qu'on se pose la question de savoir comment on qualifie le peuple donc dans cette longue période du Moyen-Âge?
Assurément, même si très vraisemblablement des distinctions sont à opérer, pour ce que je connais, on peut même dire que dans le Moyen-Âge central et le Moyen-Âge tardif, la question du peuple et de sa définition institutionnelle sont au centre des préoccupations du politique. Et dans le cas très symptomatique, même s'il est un peu singulier, il faut le reconnaître, des cités communales italiennes qui émergent dans l'histoire, disons, au cours du XIe siècle, toute la construction institutionnelle se fait autour de la notion du peuple et de ses marges, qu'elles soient des marges supérieures, c'est-à-dire l'aristocratie, les noblesses, les nobles, ou des marges inférieures, pourrait-on dire, c'est-à-dire des populations qui, dans le fond, n'accèdent pas à l'espace civique. Et la question du peuple est évidemment une question qui interroge dans la période qui nous intéresse et dans l'espace qui nous intéresse, c'est-à-dire l'espace italien et d'une manière générale aussi l'espace languedocien et provençal, parce qu'il y a là une espèce de koiné politique, des phénomènes assez similaires. Dans cette période-là, disons 11e, 14e siècle, la question de la définition du peuple et de ses droits est évidemment centrale.
Alors, ça n'est pas très pédagogique ce que j'ai fait, mais j'aurais dû peut-être commencer par vous, Thomas Granier, puisque votre période est un peu antérieure à celle qui vient d'être décrite par Patrick Gilly. Vous êtes plutôt spécialiste de la période qui est autour du 9e, 10e siècle, également en Italie. Mais néanmoins, est-ce que cette question-là du peuple se pose dans ce que vous avez pu voir dans les textes, d'ailleurs qui émailleront cette émission, dans les textes que vous avez pu compulser pour votre travail universitaire, Thomas Granier?
Alors, la question se pose peut-être pas de la même manière, mais le vocabulaire est récurrent.
Ça, de toute façon, on trouve chaque fois qu'il est question de la communauté, chaque fois qu'il est question des croyances, chaque fois qu'il est question de l'organisation politique, on trouve un vocabulaire qui est un vocabulaire latin, antique, dans les sources, populus, bien entendu, qui est le terme central, dont la traduction est toujours très, très compliquée. Mais effectivement, la question se pose, ça, oui. Après, le tout est de savoir quelles sont les intentions des auteurs, quels sont les programmes qu'ils veulent mettre en évidence, quel aspect du peuple ils veulent mettre en évidence.
Est-ce que c'est le peuple tourbain, c'est-à-dire est-ce que c'est le peuple qui, d'une certaine façon, peut se révolter, peut-être une menace pour les dirigeants, ou est-ce que c'est un peuple qui participe, disons, à une communauté donc civique d'une façon ou d'une autre? Et ça, c'est une question qui est récurrente depuis l'Antiquité, au minimum.
Alors, la question de la révolte, en fait, ne se pose quasiment jamais dans les sources du Haut Moyen-Âge. C'est pas, l'écriture est rare, l'écriture est importante, l'écriture est quasiment exceptionnelle. Donc, lorsqu'on se met à écrire des choses, c'est parce qu'on a un message souvent très, très dense, compliqué, un message très pédagogique, souvent, à mettre en évidence, et ce n'est pas du tout celui de la révolte. Généralement, c'est au contraire...
Même pour la condamner, parce qu'on pourrait se dire, d'une certaine façon, on peut partir d'une révolte pour pouvoir dire pourquoi cette révolte n'a pas raison d'être dans la société dans laquelle on se trouve, par exemple.
Non, je dirais que pour toute la période du Haut Moyen-Âge, mais finalement, c'est quelque chose qui n'apparaît quasiment pas dans les sources.
Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de révolte, simplement les sources ne disent pas qu'il y en a eu.
Je rappelle que le discours essentiel des sources, c'est quand même de définir un ordre. À partir de la transformation du monde romain jusqu'à cette période de redéfinition complète de l'Europe qui se joue avec la réforme grégorienne entre 1050 et 1200 à peu près, on est dans une période de création, où on crée un ordre qui est à la fois politique, celui du pouvoir, qui est un ordre de la chrétienté, un ordre social aussi, avec une recomposition économique complète. On est dans un discours de création, de justification de l'ordre, de justification de l'autorité. Je crois que c'est ça qui est très important.
Périne Guimbrand.
Et on a aussi justement en tête, quand on évoque le Moyen-Âge, la question, alors peut-être erronée, d'un peuple religieux, c'est-à-dire d'une communauté qui se définit avant tout par une appartenance religieuse. Est-ce qu'on peut parler pour le Moyen-Âge, alors Daniel Yancou peut-être pouvait répondre à cette question, vous travaillez sur la communauté juive au Moyen-Âge, notamment en Provence. Est-ce qu'il y a une manière de définir le peuple qui passe forcément par le prisme religieux ?
Dans la documentation notariée que je travaille effectivement dans le comté de Provence, la minorité juive apparaît sous un juif est défini comme un Judeus, une Judéa, des Judéi. Ils sont définis en tant que gens distincts, donc avec ces qualificatifs qui les déterminent. En vérité, dans ce corpus documentaire, ce sont plutôt les élites et les lettrés, les gens aisés, les gros prêteurs, les médecins qui apparaissent. Mais tout de même, pas le petit peuple, les paupérès, les minores, les pauvres, apparaissent ça et là. Par exemple, dans les legs testamentaires, lorsqu'on va léguer quelques florins pour l'aumône des juifs pauvres à marier, pour un tel qui est pauvre, pour l'hôpital des miséreux à Marseille. Donc, en filigrane, ils apparaissent. Et à Aix-en-Provence, en particulier, en 1493, on a un procès qui oppose carrément les pauvres, les minores, qui brandissent la menace d'un procès contre les ditiores, contre les maiores, contre les riches, parce qu'ils ont des revendications à faire.
Alors, on voit bien qu'il y a tout de même une différence, une difficulté à qualifier tout cela, parce que là, on parle de pauvres et de riches pour parler de peuple, on parle de peuple de Dieu ou pas de peuple de Dieu. Est-ce que tout cela, ça ne rend pas effectivement très confus cette conception? Est-ce qu'on n'est pas en train de plaquer, par exemple, une notion soit romaine, soit plus tardive, c'est-à-dire plus proche de la période moderne, voire de la période contemporaine dont on parlera à la fin de cette semaine, sur une période qui peut-être n'a pas appréhendé cette question-là de la même façon qu'on l'appréhende Patrick Gilly.
Je ne crois pas. En tout cas, pour certains espaces, c'est très clair. Il y a très clairement, j'allais dire, une forme de modernité politique. Il est clair que à partir du XIe, XIIe siècle et jusqu'à la fin du Moyen Âge, la structuration des communautés urbaines se fait autour de la notion de populus. Et il y a même un parti du peuple.
Il y a même un capitaine du peuple.
Et un capitaine du peuple qui a pour mission précisément de défendre les droits des citoyens face aux partis des noblesses. Donc c'est une construction politique, complexe, évidemment, qui est lié aux turbulences de la mise en place des communes et de la répartition des pouvoirs au sein des communes. Mais la notion de peuple est très clairement revendiquée comme une notion valorisée. Alors évidemment, très circonscrit.
Oui, voilà, c'est ça, parce que tout de même, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on parle du Moyen-Âge, donc évidemment une dizaine de siècles qui courent de la fin de l'Empire romain jusqu'aux grandes découvertes, c'est le découpage traditionnel, même si Jacques Le Goff nous expliquait qu'il y avait un long Moyen-Âge, par exemple. En tout cas, c'est cette idée-là qu'on a généralement en tête quand on parle du Moyen-Âge. On parle de ce Moyen-Âge dans un espace géographique qui est extrêmement vaste. Ce que vous êtes en train de nous dire, Patrick Gilly, c'est qu'il faut faire très attention, justement, à distinguer et les espaces et les temporalités, que ça n'est pas la même chose au 6e, 7e, 8e, 9e ou 10e siècle dont on parlait tout à l'heure avec Thomas Granier, au 12e, au 13e, au 14e, au 15e, etc. Et surtout pas la même chose en Italie, en Pologne, en Espagne, en France méridionale ou en France septentrionale.
Alors, je ne sais pas si les différences sont si nettes. En tout cas, les temporalités sont nettes, les nuances régionales sont nettes, mais les tendances de fond sont assez identiques. Hein. La singularité de la notion de peuple en Italie, elle tient au fait que, comme les organismes urbains n'ont pas de puissance supranationale au-dessus d'eux, il n'y a pas d'empereur, il a été rejeté, il a été battu, il n'y a plus le pape est là, il cherche à intervenir, mais il a du mal à intervenir dans la logique politique interne de chaque cité. Les formes de gouvernement se jouent à l'intérieur de la cité, et donc avec des oppositions internes aux différents groupes sociaux. Et le peuple, c'est-à-dire un ensemble de prérogatives et de fonctions, agit dans le sens de la défense de ses intérêts contre, évidemment, tous ceux qui chercheraient à le déposséder d'une partie de ses prérogatives, notamment les noblesses.
Alors, ce que nous explique à l'instant Patrick Gilly, c'est tout de même, mettons, le XIIe siècle avec cette révolution du XIIe siècle, ce qui se passe au IXe, Xe siècle, ce qui se passe au moment de Charlemagne, par exemple. Ça n'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas tout à fait dans le même espace géographique. On n'est pas tout à fait dans la même, peut-être, conception des choses, Thomas Granier.
Non, absolument pas. On retrouve dans les sources, effectivement, le mot populus, par exemple, mais qui peut, en fonction, à la même époque, dans le même contexte, en fonction du propos de chaque auteur, le mot peut avoir un sens différent. Ça, bien sûr, oui.
Et comment, quand on est chercheur comme vous, comment peut-on faire ce travail de détricotage, d'une certaine façon ? C'est-à-dire, avec ces mots-valises, un mot aussi ouvert que celui de Populus, comment peut-on savoir dans quel sens, c'est le contexte qui donne le sens, dans quel sens on l'utilise, dans quel sens tel ou tel, disons, clerc du IXe siècle utilise ce terme de Populus pour ne pas faire de contresens, d'une certaine façon. Thomas Granier, ça ne va pas être simple, tout de même.
Alors, pour ne pas faire de contresens, il faut être le plus honnête possible et le plus méthodique possible.
Alors, première illustration, un texte que vous nous avez suggéré, un extrait de la vie de Charlemagne d'Eginhard, donc un texte très célèbre pour ceux qui s'intéressent au Moyen-Âge, rédigé aux alentours de 830. Cet extrait nous est lu par Isabelle Fürst.
Cette guerre, la conquête de l'Italie en 774 terminée, l'on reprit celle de Saxe qui avait pu sembler un moment interrompue. Aucune ne fut plus longue, plus atroce, plus pénible pour le peuple franc. Car les Saxons, comme presque toutes les nations de Germanie, étaient d'un naturel féroce. Ils pratiquaient le culte des démons, se montraient ennemis de notre religion et ne voyaient rien de déshonorant à violer ou transgresser les lois divines ou humaines. Et l'on sait que la guerre, après tant d'années de lutte, ne s'acheva que lorsque les Saxons eurent accepté les conditions imposées par le roi, abandon du culte des démons et des cérémonies ancestrales, adoption de la foi et des sacrements de la religion chrétienne, fusion avec le peuple franc en un peuple unique.
Périne Carvan.
Thomas Granier, ça c'est un texte que vous nous avez proposé. On voit bien là que dans ce texte, l'appartenance au pays, l'appartenance à la communauté culturelle se confond avec l'appartenance religieuse.
Et pas seulement, justement. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait d'abord, qui est extrêmement rhétorique. Bon, d'abord, les démons, c'est bien entendu, c'est de la rhétorique très largement inspirée de l'Antiquité, de la part des Ginards. qui écrit aussi, il faut le rappeler, à un moment où on est déjà nostalgique du temps de Charlemagne. Les souvenirs s'estompent, c'était il y a 15, 20 ans. Bon, voilà. Alors ensuite, ce que fait Eginhard ici, c'est qu'il célèbre finalement, en ayant donné cette image extrêmement négative des Saxons, il démontre finalement la finalité de leur intégration. Et c'est une intégration qui n'est pas seulement dans le christianisme, c'est aussi une soumission à l'autorité du roi. Oui. Être réuni dans le peuple, c'est être soumis à l'autorité royale et soumis à la loi. Je crois que ça aussi, c'est très, très important, puisque au moment où Charlemagne achève la première grande phase, la dernière grande phase militaire de la conquête de la Saxe, on est en 797-798, il publie le deuxième capitulaire saxon, et en même temps, il fait mettre par écrit la loi des Saxons. C'est-à-dire que les Saxons sont désormais reconnus comme un peuple du royaume, qui n'est pas encore l'Empire. Ils ont leurs lois, ils sont différents, ils ont des traditions différentes. On leur demande de se convertir au christianisme, d'abandonner ce qu'on appelle le paganisme et qu'on a beaucoup de mal à définir, mais surtout d'accepter l'autorité du roi qui se traduit par la capacité législative de celui-ci. Le roi est contrôle le processus d'élaboration et d'application de la loi pour tous ses peuples, désormais pour les Saxons comme pour les Francs.
Donc il y a une dimension religieuse tout de même, puisqu'elle est présente,
en partie, oui.
Et il y a une dimension effectivement juridique, une dimension de droit d'une certaine façon qui s'impose aussi à des populations qui sont extérieures et qu'on va intégrer justement à cette
c'est
à
ça,
cet empire.
La conquête les intègre, hein, et j'ai beaucoup de mal avec le mot politique dans le Moyen-Âge, mais pourtant c'est bien ça dont il est question. C'est les Saxons deviennent un peuple du royaume parce qu'ils sont soumis à l'autorité royale.
C'est pour
qui
ça...
passe par le christianisme, mais le christianisme n'en est qu'un aspect.
C'est pour ça, Thomas Granier, que lorsqu'on vous a téléphoné pour préparer cette émission et qu'on a évoqué la question du peuple de Dieu, vous avez dit, c'est pas si simple que ça. Pourquoi toujours tout mettre à propos du Moyen-Âge sous l'égide de la religion? Parce qu'il y a de la religion, bien évidemment, mais il y a du social, il y a du politique, etc. etc. Thomas Granier.
Évidemment, assimiler le Moyen-Âge à uniquement une chrétienté, c'est le pire, c'est le plus vieux et le pire de tous les poncifs sur le Moyen-Âge. Mmh. Je veux dire, la vie des gens est loin de se réduire uniquement à la dimension religieuse, quelle que soit la religion d'ailleurs. Mmh. Je veux dire, il y a des conditions économiques, il y a des conditions politiques, des conditions sociales qui font la vie quotidienne.
Daniel Yankou, à vous, sur oui. Ce que vient de dire Thomas Granier.
Oui, je pensais au texte où apparaît paradoxalement la populace chrétienne par rapport aux juifs au moment de ce que les textes appellent les commotions populaires, les vacarmes, les tumultes, de façon très métaphorique et très jolie, en bref, des émeutes.
Pas des pogroms.
Le pogrom est un vocable plus tardif. Ouais. Des émeutes anti-juives. Et par exemple, à Arles, où en 1484 est raconté en 8 lignes par un notaire l'émeute anti-juive qui survient le 7 juin, en plein été, il est dit que c'est la populace ou des étrangers qui attaque, qui coursue au quartier juif. Pourquoi la populace et des étrangers? Parce que c'est impersonnel, parce qu'on ne peut pas les cerner. Et dans ce cas-là, on parle de petits peuples, de populace et de gens impersonnels, d'étrangers.
Alors, justement, cette question religieuse, Patrick Gilly, vous la percevez aussi, vous qui avez fait des travaux justement d'histoire juridique, en particulier sur cette Italie classique et puis l'Italie tardive par rapport au Moyen-Âge. Toutes ces questions-là, ça vous parle également?
Ah oui, ce sont des questions centrales, parce que lorsque j'évoquais la question de ces organismes communaux autogouvernés, donc les villes qui cherchent à s'autogouverner, elles rencontrent nécessairement dans leur effort pour acquérir cette autonomie juridictionnelle, elles rencontrent les autorités instituées antérieurement et contemporanément, à savoir les évêques, mais aussi un temps les représentants de l'Empire. Et les conflits sont alors très, très vivaces. Hein. Et ce qui se passe, c'est que on assiste pendant tout le XIIIe siècle et encore au-delà à un effort récurrent de la part de la papauté et de ses agents, que ce soit les ordres mendiants, que ce soit des légats envoyés en mission, un effort récurrent, disais-je, pour intervenir dans la définition même du jeu institutionnel. La papauté, à travers notamment la lutte anti-hérétique, cherche à définir le périmètre de la citoyenneté en disant qui est un bon chrétien et donc qui a potentiellement accès aux charges civiques, parce que c'est ça, et qui n'est pas un bon chrétien et qui, de fait, doit être exclu des charges civiques.
Périne Carvan.
Oui, parce qu'il y a toute une période où ce sont les évêques, où ce sont les autorités religieuses qui ont l'autorité politique également.
Oui, oui, disons dans la période carolingienne et post-carolingienne, 9e, 10e, 11e, la puissance publique est incarnée par l'évêque, qui est investi justement de cette potestas publica qui lève les impôts, qui peut même conduire une armée, enfin qui a toutes ces prérogatives régaliennes.
Alors, deuxième texte que vous avez proposé, Thomas Granier, pour le lire dans cette émission consacrée donc à la question du peuple au Moyen-Âge, dans cette série de la Fabrique de l'Histoire, ici en direct de Montpellier du Quorum. C'est un extrait des miracles d'Agrippa de Naples, ça date de 960 environ. Vous nous présentez ce texte avant que Isabelle Furst nous le lise. C'est quoi ces miracles d'Agrippa de Naples et pourquoi c'est important, vous avez travaillé dessus, pourquoi c'est important selon vous dans ce thème qui est le nôtre, à savoir le peuple au Moyen-Âge?
Alors là, on est face à un document qui est complètement anecdotique. Bon, on est d'abord dans le genre hagiographique avec ses règles, sa rhétorique propre. J'avais sélectionné cet extrait uniquement parce qu'il nous montre très bien, si vous voulez voir le peuple chrétien, là vous en avez éventuellement une illustration où vous avez très clairement l'affirmation de la naissance différente des gens. On est dans une Italie du Sud qui voit coexister des Byzantins, des Lombards, des ex-Romains.
Avec des agressions sarrasines régulières.
Vous avez quelqu'un qui dit je ne veux pas voir le massacre de mon peuple. Et très clairement là, mon peuple, ce sont les chrétiens.
Un extrait donc des miracles d'Agrippa de Naples, rédigé vers 960, lu par Isabelle Furst.
La nuit même donc, alors que pointait à peine le jour où l'on craignait de voir les païens prendre cette ville, voici que les très bienheureux Janvier et Agrippin apparaissent à un homme de naissance grecque, retenu en otage parmi les païens qui, tous les jours, se lamentaient douloureusement de la chute de la ville et l'interrogent. Pourquoi pleures-tu sans cesse et importunes-tu le ciel de tes gémissements? Comme il leur répondait, parce que je suis chrétien et que je ne peux supporter ni la mise à mort de mon peuple, ni le spectacle du massacre imminent, les saints le consolèrent aussitôt joyeusement. La puissance d'en haut ne permet pas ce forfait. Ne doute pas. Notre promesse est véridique. Envoyés du Christ, nous sommes porteurs d'heureuses nouvelles. Sache donc à présent et rejette toute crainte. La ville ne sera pas prise. Par le présent du Christ qui sur nos prières l'a arraché au groupe funeste et dans sa clémence intervient en sauveur avec la miséricorde de son Père. À ces mots, tout joyeux, il rendit grâce à Dieu Tout-Puissant et désira dans son cœur assoiffé constater la miséricordieuse promesse.
Voilà donc un extrait des miracles d'Agrippin de Naples. Thomas Granier, on voit bien qu'il y a nous et les autres, tout de même, dans un texte comme celui-ci, c'est très clair.
Ah oui, là, tout à fait. Mais n'oublions pas que c'est aussi la loi du genre. Là, je disais que c'est quand même quelque chose de très anecdotique, de très circonstancié dans un genre particulier. Il s'agit de glorifier la puissance d'intercession des saints qui vont écouter les prières des hommes, les transmettre auprès de la divinité pour essayer d'obtenir l'intervention miraculeuse. Et puis on est aussi là face à un contexte particulier, une menace d'une incursion navale contre la ville de Naples. Donc il y a toute une rhétorique de la protection. Et cet extrait est intéressant puisqu'on a un homme qui est bien dit différent, il est grec. Donc il n'est pas napolitain, il n'est pas lombard. Et
mais il est grec et chrétien tout de même.
Oui, et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il dit « mon peuple ».
Oui.
Voilà. Mais parce que là, vous êtes dans une logique qui est strictement une logique spirituelle.
Oui,
donc vous avez là un aspect de la question. Il est intéressant de le voir, mais il est intéressant aussi de le circonscrire dans le cadre de son message.
Périne Carvan.
Et dans vos travaux, Thomas Granier aussi, vous soulignez comment justement ces saints deviennent les saints patrons d'une ville et puis comment à un moment se confond d'une certaine manière l'appartenance à une ville et puis la référence à son saint. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de l'ordre du culturel et du religieux qui se noue dans l'identification.
Oui, je pense que l'intégration autour du culte d'un saint commun, mais de toute façon, Patrick vous dirait qu'on voit les choses tout aussi clairement, peut-être encore mieux dans les organismes urbains, les organismes citadins, mais il y a bien effectivement le populus à l'échelle locale, en partie, hein, est qualifiée, peut-être identifiée en partie, à une dévotion commune, la réunion dans une église, la réunion la cité est un diocèse autour de l'évêque, dans la célébration des sacrements, c'est l'un des aspects de son existence. Mais je rappelle que ce n'est que l'un des aspects.
Oui, mais ça veut dire aussi qu'il est difficile pour l'historien, j'imagine, Thomas Granier, de discerner la hiérarchie d'une certaine façon. Est-ce qu'on appartient au corps de l'église en général? Est-ce qu'on appartient à sa cité? Est-ce qu'on appartient à son diocèse, est-ce qu'on appartient, et qu'à partir de là, et donc comment fait-on quand on a distingué justement ce terme de peuple pour savoir à quel peuple on appartient? Est-ce qu'on appartient à un peuple beaucoup plus général qui serait le corps de l'Église tel qu'on peut l'imaginer généralement, tel qu'il a pu être représenté d'ailleurs soit dans certains vietros, soit dans certaines enluminures? Est-ce qu'on appartient à son territoire local ou à d'autres entités qui peuvent être intermédiaires entre ces deux entités, donc très petites et très grandes, Thomas Granier?
Je crois qu'en fait la vraie question, c'est pas est-ce qu'on appartient. C'est telle source tient un discours différent. Oui. Et en fonction de son propos, en fonction de son auteur, en fonction de sa destination, tel texte va avoir tendance à présenter les gens comme... Eginard, vous montrez les Francs et les Saxons réunis sous l'autorité du roi. Là, avec cet exemple hagiographique, on change complètement de perspective. Et le texte met l'accent sur une appartenance principale, l'appartenance chrétienne, et une appartenance secondaire, l'appartenance citadine.
Je comprends bien, Thomas Granier. Mais néanmoins, si on veut pédagogiquement montrer tout cela, on sait bien qu'il y a l'effet de source, que les textes eux-mêmes nous présentent des biais et qu'il faut en tenir compte. Si on veut, d'une certaine façon, restituer aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait comprendre ce qu'est cette notion de peuple au Moyen-Âge, comment peut-on faire justement pour le lui restituer une fois qu'on a dit ces précautions tout à fait légitimes de chercheurs que de dire attention, ces textes-là nous présentent des objets biaisés d'une certaine façon.
Oui, mais je pense que de toute façon, il est très simple de rappeler qu'il y a une multiplicité d'appartenances, exactement comme aujourd'hui. Il y a une appartenance familiale, il y a une appartenance de quartier, il y a une appartenance chrétienne, il n'y a pas encore d'appartenance nationale, mais ça viendra beaucoup plus tard. Il y a une appartenance religieuse, oui. Il y a une multiplicité.
Patrick Gilly et puis Daniel Yonkou qui voulait intervenir.
Oui, je crois que l'idée importante, comme l'a dit Thomas, c'est effectivement ces cercles concentriques qui définissent l'identité. Et ils ne sont, pas du tout, pas nécessairement religieux. Pour prendre les cas urbains, par exemple, mais qu'on pourrait élargir du reste aux campagnes, la base élémentaire de l'appartenance et de l'identité, ça va être le territoire paroissial, mais ça va pouvoir se doubler aussi de l'appartenance à des confréries laïques ou à des corporations de métiers qui viennent croiser quelquefois d'ailleurs les confréries laïques, parce que dans certains cas, elles se superposent. Ce sont les mêmes métiers qui animent des confréries laïques de dévotion à tel ou tel saint. Plus largement, il va y avoir les grands saints, les saints urbains qui définissent le patronage général sur une cité. Donc la citoyenneté, la citadinité, pourrait-on dire, se définit par ces cercles concentriques d'appartenance. Et les gens, je ne sais pas s'ils distinguaient très nettement... On voit très bien tout de même dans les sources au moins normatives la distinction entre le peuple de la ville et puis ses alentours. Voilà, ça, il y a le populus, il y a le peuple, et puis il y a ce qu'on appelle les contadins, les districtuales aussi, du nom latin, qui sont dans le district, c'est-à-dire dans le périmètre extra-urbain, soumis à la ville, mais qui ne sont pas les citoyens, qui n'ont pas accès aux magistratures et aux charges urbaines.
Daniel Yonkou.
Oui, la communauté juive est tolérée dans une globalité chrétienne et elle a cependant une autonomie interne. Elle est dirigée par deux ou trois représentants que l'on appelle bélons et qui sont chargés de lever la taille, la talia iudeorum, la taille pesant sur l'impôt, pesant sur les juifs. Et ces bélons sont arbitres, médiateurs des conflits et surtout représentants de leur groupe auprès de la globalité chrétienne. Et cette autonomie interne est importante. Et au sein de leur quartier juif, de leurs installations dans la ville, ils sont, si je puis dire, maîtres chez eux. De façon... un peu fausse, j'ai évoqué tout à l'heure des émeutes anti-juives, mais je me plais à dire cependant que dans cette ère méridionale, il y a eu une certaine aménité de mœurs, il y a eu des rapports d'excellent voisinage, et sauf en temps de crise qui surviennent dans le comté de Provence très tard, et sauf au moment des bannissements qui ponctuent la fin du Moyen-Âge, effectivement, il y a eu des relations très harmonieuses, des échanges d'estime et entre lettrés, entre les juifs, les médecins juifs de Montpellier, par exemple, les médecins juifs et les médecins chrétiens de Montpellier. Donc, il y a eu tout de même une certaine aménité de mœurs.
Périne.
Et justement, par rapport, on évoquait cette idée d'appartenance à une communauté. Est-ce que, justement, la communauté juive, on le verra au moment où certains juifs prendront la décision forcée, mais la décision malgré tout de se convertir. Est-ce qu'il y a aussi cette question de l'appartenance à la religion, certes, mais à un endroit, à un pays, à des racines, à une culture commune ?
Ah ben, ils se savent en diaspora, ça c'est certain. Et ils vivent au sein de leur... Ils ont l'inquiétude pour partage, et c'est la raison pour laquelle ils se regroupent au départ. C'est le concile de Latran en 1215 qui prônera la marginalisation, le quartier clos, le quartier plus ou moins clos. Il n'y a pas eu de ce que l'on appellera plus tard le ghetto dans le midi de la France. C'est un quartier plus ou moins ouvert. Donc il y aura le concile de Latran qui prônera une marginalisation, mais au départ, ils ont choisi de vivre regroupés pour des besoins évidents communautaires, se trouver pour respecter la règle du déplacement shabbatique, par exemple, et se trouver tout près d'un lieu de culte qui est toléré, qu'ils peuvent avoir, pour être tout près d'un lieu de débit de viande dite de loi, parce que la viande cachère, le vocable cachère signifie apte à la consommation, hein, ça signifie rien d'autre. Et ils vivent de façon, à l'intérieur de leur quartier juif, de façon relativement autonome, mais ils ont des échanges commerciaux à l'extérieur. Ça n'est pas le ghetto contadin des 16e et 17e siècles.
Oui, mais tout de même, vous avez travaillé effectivement sur les périodes un peu plus de tension également, donc avec les expulsions en particulier au 13e ou 14e siècle surtout. Vous en avez travaillé autour de ça, Daniel Yankou. Il y a tout de même cette question de la conversion forcée, la conversion voulue aussi de certains. Pour, dites-vous d'ailleurs, au temps du roi René, lorsque vous avez travaillé sur le roi René, plus tard, donc pour d'une certaine façon se conformer à l'idée que le reste de la société se fait de la progression du cursus honorum, de la façon de rentrer dans la société, etc. Et vous expliquez bien qu'il y a des tensions à l'intérieur de la communauté juive, des communautés juives provençales en particulier, entre ceux qui disent eh bien, on va continuer à pratiquer notre religion, ceux qui dans la même famille disent on va se convertir, ceux qui gardent encore les livres et ceux qui les donnent à leurs enfants ou qui les font disparaître. Et au bout du compte, on voit bien qu'il y a une volonté là aussi de rassembler autour d'un peuple qu'on pourrait dire chrétien, de se rassembler autour d'un peuple chrétien, d'une sorte de norme en tous les cas pour certains d'entre eux et d'abandonner leur religion.
Oui, mais ce que vous évoquez, c'est à la fin du processus, oui, sûr, à l'extrême fin du XVe siècle, quand précisément toute l'Europe s'est vidée de juifs progressivement. Il y a eu la première expulsion d'Angleterre en 1290 et puis suivie de très près par le bannissement de Philippe le Bel qui affecte justement le Languedoc français, qui est compris dans le Royaume de France. Et ils auront, le XIVe siècle, un siècle de tergiversation, de renvoi, de rappel. Et puis finalement, à terme, c'est en 1394 que le Royaume de France se vide définitivement de juifs. La religion juive n'est plus licite dans le Royaume de France à partir de Charles VI, dit le fou. Et puis, effectivement, ce que vous évoquez, dans le comté de Provence, indépendant du Royaume de France, ils ont par chance un siècle de sursis. Mmh. Le XVe siècle, ce siècle de sursis qu'ont également, en dépit de crise, les juifs ibériques aussi. Donc, dans cette fin du XVe siècle, les aires d'habitat juif se rétrécissent. Et quand le comté de Provence est rattaché au Royaume de France et qu'après la mort du roi René, les choses se gâtent, effectivement, et on ne voit pas pourquoi le comté de Provence n'aurait pas calqué sa politique sur le Royaume de France dont il fait désormais partie. Et c'est ainsi que les choses se précipitent et on intime l'ordre, ben, comme dans la péninsule ibérique, comme en, en Espagne comme au Portugal, où toute une communauté va être convertie massivement avec ses pauvres, ses riches, ses rabbins, ses médecins, ses agentes féminines, etc. Eh bien, dans ce contexte d'éradication de la communauté juive médiévale à la fin du XVe siècle, dans le comté de Provence, effectivement, ils ont le même choix, se convertir ou partir. Eh bien, à l'extrême veille du bannissement, alors qu'au temps de leur âge d'or, il y avait environ 12 000 à 15 000 juifs dans le comté de Provence, à la veille du bannissement, ils ne sont plus que 2 000 individus. Entre-temps, il y a eu des émeutes, des départs vers la Sardaigne pour les juifs de Marseille. 200 juifs de Marseille partent pour la Sardaigne après l'émeute d'Arles que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, à l'extrême veille du bannissement, ils ne sont plus que 2 000 individus. Et vous avez raison, un millier opte pour le départ dans le Contat, dans l'Italie de Patrick Gilly, dans les Balkans, une maigre vaguelette en Afrique du Nord, au Maghreb. Et puis, il y a ce millier d'individus qui optent pour désormais le christianisme dans une Provence sans juifs. Et ça devient des nouveaux chrétiens, des néophytis, qui prennent les noms très glorieux de leurs parrains, souvent issus de la noblesse provençale. Et c'est ainsi que Lunel devient Guillaume de Roquebrune et d'Entrecasteaux, les Amiel, les Estienne, et donc une population dotée désormais de noms prestigieux.
Alors, Patrick Gilly, est-ce qu'on assisterait, puisqu'on a expliqué cette mosaïque, ces questions de territoire multiples sur lesquelles on a beaucoup insisté au début de cette émission, à savoir que ce peuple, il était varié, éclaté, qu'il n'était pas simplement religieux, mais qu'il était également politique et social. Est-ce qu'on assisterait progressivement, au fur et à mesure qu'on avance dans le Moyen-Âge, à une sorte d'unification, une sorte de, disons, de contrainte plus formelle, plus forcée, qui conduirait justement à ce qu'on connaîtra plus tard, à savoir une idée globalisante d'un peuple qu'on verra à l'œuvre en particulier à l'époque moderne et plus tardivement au moment de la Révolution française.
Je ne sais pas si on assiste à l'idée d'un peuple comme concept globalisant. Ce qu'a décrit Daniel Iancu, ce sont des formes de répression disons, de toute hétérodoxie. C'est un phénomène de normalisation que l'on trouve appliqué non seulement aux juifs, mais à toutes les formes de dissidence religieuse. Et le grand mouvement du XIIIe siècle, je dirais à l'intérieur des gens qui se revendiquent du christianisme, a consisté aussi à imposer une forme de normalisation du christianisme, impulsée par le pape et la papauté et ses agents, mm-hmm. et notamment les ordres mendiants, qui a viser à définir beaucoup plus strictement ce qui est dedans et ce qui est dehors, la licéité des pratiques religieuses qui devenaient en même temps des pratiques sociales mm-hmm. conformes et acceptables, et puis donc des procédures ipso facto de qualification politique.
Et puisque vous évoquez justement ces tensions qu'il a pu y avoir, vous avez proposé, on a tiré d'un de vos livres, Patrick Gilly, un texte donc, qui je crois date du XIIIe siècle, justement c'est une lettre à ceux qui veulent faire payer, des communes en particulier, qui veulent faire payer des impôts aux représentants de l'Église. On explique que ça n'est pas possible et c'est Isabelle Furst qui nous le lit.
Au podestat, consul et conseiller de Lombardie, présent et futur. Nous avons attendu et espéré jusqu'à maintenant que la province de Lombardie, tel un jardin irrigué et une vigne gracieuse, produise les fruits escomptés, mais elle a donné, au lieu de la douceur du raisin, l'amertume de la lambruche et exhalé, au lieu du parfum des roses, la puanteur des pavots. Jadis, le pharaon, roi d'Égypte, alors que les autres étaient réduits à la servitude, non seulement préserva ses prêtres et leurs possessions dans leur ancienne liberté, mais pourvu même à leur entretien sur les biens publics. Et le roi de Perse, Artaxerxès, interdit d'imposer le vectigal. Le tribut et la nonne à tous les prêtres, lévites, chantres, portiers, natinés et ministres de la maison de Dieu. Mais vous, ainsi qu'il nous a été rapporté fréquemment pour l'outrage et le dommage tant des églises que des clercs, vous faites des motifs de ce qui n'en est pas pour leur imposer des collectes et tailles. Vous les opprimez de réquisitions déshonorantes. Et s'ils viennent à refuser de les payer ou de les subir, ou bien vous les bannissez de telle sorte qu'ils se trouvent exposés aux attaques des hommes mauvais, ou bien vous leur interdisez l'usage des choses et des offices communs, Ou bien encore, vous les poussez violemment d'une autre manière pour que, contraints par une nécessité presque inévitable et malgré eux, ils donnent satisfaction. Afin que le sacerdoce ne se trouve pas aujourd'hui au sein du peuple chrétien dans une moins bonne condition que jadis chez les juifs et les gentils, nous vous mandons et ordonnons formellement à tous, en prenant à témoin le jugement divin, de vous abstenir de ces exactions et atteintes aux droits, et de ne contraindre en aucune façon les clercs et les églises à supporter ces charges, mais de recevoir humblement, avec des actions de grâce, les subsides que l'évêque et le clergé peuvent parfois, éventuellement, faire apporter par les églises si, tous ensemble et sans aucune contrainte, ils le jugent nécessaire et utile, lorsque les facultés des laïcs ne suffisent pas pour soulager les utilités et nécessités communes. Sans quoi, puisque le concile de Latran interdit de telles pratiques sous peine d'excommunication, et puisqu'il est juste assurément que les choses spirituelles soient soustraites aux laïcs qui ne craignent pas de dérober les choses temporelles aux clercs, si certains d'entre vous osent aller de nouveau à l'encontre de notre commandement, qu'ils se sachent tenus par les liens de l'excommunication, et que jamais, sans un ordre spécial du siège apostolique, ces contempteurs n'obtiennent le bénéfice de l'absolution avant de se présenter en personne à la vue apostolique pour donner pleinement satisfaction.
Voilà donc, Patrick Gilly, un texte qui est extrait d'un des livres que vous avez publié justement, qui montre bien les conflits de pouvoir entre ce pouvoir donc de l'Église et ces pouvoirs communaux qui s'installent dans l'Italie de la milieu et de la fin du Moyen-Âge, et donc la volonté, là aussi, de contrôler, la volonté d'unifier, la volonté de faire en sorte que eh bien, tout le monde se marche un peu au pas tout de même, Patrick Gilly.
Oui, dans le cas d'espèce, le texte est un texte d'Innocent III, c'est un rappel à l'ordre des autorités politiques urbaines de toutes les villes de Lombardie qui se sont engagées dans une politique de taxation des biens du clergé. Mmh. Parce que pour faire vivre la ville, pour payer la chevalerie, pour faire la guerre, pour renforcer les murailles urbaines, il faut lever des impôts. Or, le clergé, c'est une masse de ressources considérables. Et donc, l'idée est très, très vite apparue, dès le XIIe siècle, hein, de taxer...
De faire payer l'Église.
De faire payer l'Église. Et là, ce sont deux logiques politiques et même deux conceptions du monde là, qui vont s'affronter dans ce texte merveilleux d'Innocent III, avec toute la rhétorique de la chancellerie pontificale.
Artaxerces, on y va.
On remonte très, très loin. Il y a la condamnation, mais ça va encore au-delà, parce que il y a une condamnation qui aboutit en fait à une excommunication de fait pour toutes les autorités politiques qui continueraient à taxer le clergé. Mais dans d'autres cas, c'est encore plus subtil. La papauté a très bien compris que le pouvoir urbain, c'est une succession de charges, de magistratures, de fonctions. Et pour bloquer le système, la papauté dit, si vous continuez à taxer le clergé, quelle que soit la personne qui taxe, quel que soit le podestat ou le recteur de la cité qui va imposer une fiscalité punitive contre le clergé, il y aura excommunication. Autrement dit, l'excommunication se succède à elle-même dans la rotation des charges civiques. C'est-à-dire que c'est tout le fonctionnement politique qui est censément bloqué. En réalité, il y a des négociations pour obtenir un partage une espèce de consensus à minima. Le risque, évidemment, pour la papauté, lorsqu'elle a une logique très répressive comme celle-ci, c'est évidemment que la population locale se dissocie et finissent par devenir, comme la papauté va le reconnaître, une fosse à hérétiques, c'est-à-dire une fosse à dissidents politique et religieux.
Mais, et tout de même, il y a cette crainte, en particulier vers la fin du Moyen-Âge, de la question de la division, etc. Et justement, cette crainte que ce peuple, quel qu'il soit d'ailleurs, ne soit plus sous l'égide d'un seul, mais devienne à partir d'un certain moment un peuple divisé qui va peut-être justement contester le pouvoir, soit des souverains, soit des communes, soit des autorités religieuses, en particulier Patrick Gély.
Là, dans les cas dont on parlait, il s'agit d'une chronologie quand même très précise. C'est milieu 12e, fin 13e. Après, la situation politique interne fait que le pouvoir d'intervention de la papauté se réduit malgré tout. Bien sûr, il y a encore des tentatives d'intervention, mais le pouvoir intrusif auquel on assistait au XIIe, XIIIe siècle n'est plus aussi fort.
Thomas Granier, s'il fallait, parce qu'on va bientôt conclure, se dire comment raconter dans dans deux pages ou cinq pages d'un ouvrage sur le Moyen-Âge cette question du peuple, s'il fallait le résumer après avoir écouté vos collègues ici même, qu'est-ce que vous diriez, quelles sont les grandes lignes qu'il faudrait présenter pour se dire, ben voilà, il y a d'abord cette multiplicité des approches qu'on a dit d'abord, et puis ensuite il y a la volonté d'unification. Est-ce que c'est ce qu'il faudrait mettre en avant justement pour pouvoir raconter cette histoire du peuple au Moyen-Âge?
Alors la première chose que je dirais, c'est pas moi, par pitié. Voilà. Ensuite, je pense que...
Pourtant, un jour, on vous demandera peut-être d'écrire un manuel ou quelque chose sur l'histoire du Moyen-Âge, et là, vous serez coincé, vous serez obligé de le faire.
Donc, je pense que c'est pas tellement une question de... Je sais pas si on peut vraiment distinguer des phases. Mais je pense qu'il est important de mettre en évidence que, grosso modo, les discours sur le peuple sont des discours qui ont une volonté... c'est des discours qui cherchent à définir. Qui cherche à définir et donc éventuellement en prenant aussi la peine de définir l'autre, c'est-à-dire que pour créer, on peut aussi parfois exclure. Je dirais que ça, c'est la première grande logique sur l'ensemble du Moyen-Âge. On est donc face à une production permanente, chacune contextualisée, de discours tendant à
décliner des frontières,
définir le peuple, et éventuellement en définissant des frontières.
Des frontières, ça peut être des frontières géographiques, mais ça peut être tout simplement des frontières entre ceux qui sont à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté.
Et puis, n'oublions pas aussi que le premier sentiment, c'est quand même l'appartenance à une communauté sur laquelle il n'y a pas de source, c'est la famille. La première appartenance, c'est l'appartenance, c'est-à-dire au quotidien des gens avec qui on vit. Et là-dessus, il n'y a quasiment aucune source, parce que ce n'est pas quelque chose qui intéresse les normateurs.
Patrick Gély, un dernier mot.
Je pense tout de même que progressivement, au cours des 13e, 14e et 15e siècles, on assiste, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, à un affinement, je dirais, du lexique social. C'est-à-dire que les notions deviennent de plus en plus précises. J'évoquais au début le fait que le peuple, c'était l'ensemble des citoyens. Et par exemple, on voit à partir du 14e, 15e siècle, dans une ville comme Florence, des formes qu'on ne trouvait pas jusqu'à présent de racisme social. Dans une cité aussi, une cité drapière comme Florence, tout le bas peuple des ouvriers de la draperie
est qualifié désormais.
Est qualifié, mais on les appelle même les égouts.
Oui.
Les fognes en italien, ils sont vraiment aux marges de l'espace civique.
Vous voulez dire que si on est commencé dans une sorte de nébuleuse où on n'arrivait très bien à définir
ce
que c'était que le peuple,
je pense que le lexique social
formellement ensuite ça va s'affiner. Un dernier mot, Daniel Yancourt.
En revanche, dans les documents notariés du XVe siècle, la famille juive apparaît très clairement à travers les contrats de mariage, les testaments, les inventaires après décès, où les bibliothèques apparaissent. Et j'eusse aimé développer davantage le peuple du livre avec les manuscrits qui circulent, et même dans la ville de Montpellier, où les juifs andalous multilinguistes trouvent refuge ici à Lunel et véhiculent par des transferts culturels sans précédent toute la culture juive andalouse qui se développait en langue savante arabe.
Eh bien, si on veut le savoir, si on veut le connaître, il faut vous lire. Daniel Yancourt, vous avez écrit évidemment des livres sur être juif en Provence, mais vous avez écrit également des livres sur Maïmonide et sur justement ces passages entre justement cette judaïté ibérique en particulier et puis la judaïté ici même à Montpellier. Merci à vous, Patrick Gély, merci Thomas Granier, merci Daniel Yancourt. Et pour terminer cette émission toute cette semaine, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir mon camarade, mon collègue, celui avec lequel j'anime tous les jours les rencontres de Pétrarque, il vient nous faire une sorte de contrepoint d'actualité sur justement ces rencontres de Pétrarque qui portent le même thème, qui portent sur le même thème que les émissions de la Fabrique de l'Histoire. Et donc, vous allez nous dire comment s'est passée cette leçon inaugurale de Pierre Rosanvallon. Hier, on a évoqué la question du peuple introuvable. C'était le titre de son ouvrage, un de ses ouvrages, Pierre Rosanvallon. Et il était donc à la tribune pour pouvoir parler de sa façon de voir le populisme en particulier.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous savez que toute l'entreprise de Pierre Rosanvallon consiste à explorer la démocratie, le modèle démocratique comme une sorte d'expérience toujours inachevée aux frontières mouvantes, explorer la démocratie dans ses espérances mais aussi dans ses désillusions, dans ses zones de tempête et de dérèglement comme dit Rosanvallon, eh bien pour lui c'est partir à la recherche justement de cette figure introuvable, incertaine qui s'appelle le peuple, un peuple dont tout le monde se réclame mais que personne n'arrive vraiment à définir rigoureusement, de Jules Michelet à Jules Vallès. Le peuple est toujours, hein, Emmanuel, non seulement un fait social, un groupe social, mais aussi et surtout une force historique, une force qui va, une révolution en marche. Et si l'exaltation du peuple menace sans cesse de tourner au populisme, a dit Rosanvallon, eh bien c'est parce que ce peuple est par essence, depuis toujours, une puissance indéterminée, infigurable, tant et si bien que le populisme constitue non pas une pathologie externe ou étrangère aux démocraties, mais bien une pathologie intime et interne.
D'ailleurs, Jean-Bien de Baume, Pierre Rosanvallon a bien souligné qu'il fallait prendre au sérieux justement cette question du populisme, qui sera d'ailleurs au cœur de notre émission de ce soir, ici même aux rencontres de Pétrarque, donc dans la cour du rectorat. Il fallait la prendre véritablement au sérieux, cette question populiste.
Oui, et devant le public des rencontres, qui est toujours aussi attentif, mais aussi exigeant, toujours, des rencontres de Pétrarque, et bien Pierre Rosanvallon a réaffirmé qu'on ne saurait surmonter la tentation populiste ni par un moralisme flou, ni par un mépris hautain. Ce populisme fait symptôme, il fait symptôme d'une détresse réelle, il renvoie à un sentiment réel d'impuissance, et notamment au sentiment qu'il n'y a plus d'alternative, que l'horizon est bouché. Aujourd'hui, ce désarroi, a-t-il dit, est d'autant plus à prendre au sérieux qu'il est manipulé, certes, exploité par des mouvements qui sont porteurs d'une double prétention. La première, c'est qu'ils prétendent savoir, eux,
ce qu'est le
connaître, ce qu'est le peuple.
On a du mal à le définir ici-même.
Du peuple, voilà, que vous avez à toutes les époques, y compris au Moyen-Âge. Ils pensent aussi pouvoir, c'est leur deuxième prétention, ils pensent pouvoir s'adresser directement à lui, au peuple, en court-circuitant l'ensemble des corps intermédiaires, notamment les élites corrompues, les médias, etc. etc. Dans ces conditions, de même que le XXe siècle aura été le siècle des totalitarismes, a averti Pierre Rosanvallon, eh bien, il se pourrait bien que le XXIe soit l'âge des populismes.
Un dernier mot, justement, on peut se poser la question de savoir quelle réponse à apporter, et c'est ce qu'a tenté de faire Pierre Rosanvallon lors de cette rencontre et cette leçon inaugurale hier. Quelle réponse à apporter à la tentation populiste, Jean-Bien de Baume?
Oui, c'est dur à dire, c'est un peu comme le peuple en 5 pages, là aussi c'est dur à dire en quelques secondes. Enfin, pour répondre à cette question...
Il a pris 3 quarts d'heure pour le dire.
Ouais, voilà, mais je vais essayer de le résumer en quelques secondes. Pour répondre à cette question, Rosanvallon a mobilisé ses classiques, c'est un peu son état d'esprit permanent, et notamment il a cité Tocqueville en disant que la démocratie, ce n'est pas seulement un ensemble d'institutions, de procédures, mais c'est d'abord un état d'esprit et surtout une certaine qualité de la société, une certaine forme de société. À la fin du 19e siècle, il y avait déjà eu toute une vague populiste, a-t-il rappelé, et la réponse avait été le développement de l'État-providence. Et bien aujourd'hui, de même, c'est encore et toujours la question sociale qui revient sur le devant de la scène, et si le mot justice est à la mode, notamment en philosophie politique, a dit Rosanvallon, et bien il est temps, d'après lui, de remettre à l'ordre du jour la question de l'égalité, c'est-à-dire la question de savoir comment on crée du commun, de la vie commune, de l'espace commun. Surmonter le populisme, a conclu donc Pierre Rosanvallon, eh bien c'est d'abord réinventer la démocratie, démultiplier les instances de contrôle et les formes de représentation. Il a cité un mot de Sieyès que je trouve très beau.
Formidable.
Multiplier les places, les trottoirs et les réverbères. Cette formule de Sieyès, multiplier les places, les trottoirs et les réverbères, Emmanuel, elle correspond à une certaine tendance, à une certaine rêve de réinvention démocratique. Elle correspondra aussi parfaitement, c'est un mot d'ordre qui convient parfaitement à ces rencontres de Pétrarque et à cette semaine des idées.
Et on se retrouve donc ce soir à 17h30 dans la cour du rectorat, parce que normalement il va faire beau à Montpellier cet après-midi. Et
nous ne serons
plus ici même au quorum. Nous remercions toute l'équipe technique, Laurent Fracchia, Yvan Turc et Benjamin Thuot, ainsi que Renaud Dalmar qui était la réalisation. Et on se retrouve demain donc à 9h sur la Fabrique de l'Histoire, donc pour évoquer la question des révoltes populaires à l'époque moderne. Et on se retrouvera à la fin de cette émission de demain avec vous, Jean-Bernard Beau. Merci.